Vous écoutez, on lit pour vous.
Éducation à la sexualité, peu de demandes d'accommodement dans les écoles du Québec. Un texte de Zachary Goudreau paru le 14 novembre 2024 dans Le Devoir. Même si plusieurs parents québécois s'opposent à certains contenus d'éducation à la sexualité enseignés à leurs enfants au primaire et au secondaire, seulement 5 demandes d'accommodement ont été acheminées à la dizaine de centres de services scolaires CSS ayant répondu aux questions du devoir. En l'espace de quelques mois, une pétition lancée en ligne en juillet 2024 et demandant à Québec de supprimer le programme Culture et citoyenneté québécoise, CCQ, en raison des cours d'éducation à la sexualité qu'il comprend, a récolté près de 10 000 signatures dont l'origine est difficile à retracer. Ce ne sont toutefois que 5 parents qui ont acheminé depuis le début de la présente année scolaire une demande d'accommodement pour tenter d'exclure un de leurs enfants d'une partie de ses cours en invoquant un motif religieux sur les quelques centaines de milliers d'élèves qu'accueillent les 10 CSS ayant répondu aux questions du devoir. 9 d'entre eux sont situés dans la grande région de Montréal, tandis qu'un autre dessert des élèves de Trois-Rivières. Le CSS de Montréal, le plus grand de la province, n'a ainsi reçu qu'une seule demande de ce type depuis le début de l'année scolaire, qu'il a rejetée. Le CSS Marguerite Bourgeois en analyse pour sa part une pour laquelle il n'a pas encore tranché. Celle-ci porte sur l'aspect « identité de genre » du programme CCQ, a indiqué le centre de service scolaire. Les autres demandes ont été acheminées à la commission scolaire Lester B. Pearson et au CSS des Patriotes. Ce dernier en a refusé 2. Or, ce ne sont pas tous les parents opposés à la présence de leurs enfants dans des cours d'éducation à la sexualité qui effectuent des demandes d'accommodement en bonne et due forme. Certains décident tout simplement de ne pas envoyer leurs enfants à l'école les journées où certaines matières sont enseignées, relève la formatrice en éducation à la sexualité et autrice du livre « Parler sexe » Maude Pinchot-Major. Un phénomène toutefois difficile à chiffrer. C'était « Éducation à la sexualité, peu de demandes d'accommodement dans les écoles du Québec ». Un texte de Zachary Goudreau paru le 14 novembre 2024 dans Le Devoir.
Comment repérer les avis bidons de clients sur l'Internet? Un texte de Nida Dragicevic de La Presse canadienne paru le 4 décembre 2024 dans La Presse. Vous voyez un produit abordable avec des milliers d'avis et une note moyenne d'au moins 4 étoiles. Est-ce qu'il faut l'ajouter à votre panier? Bien que la mise en commun des expériences des clients soit un mécanisme extrêmement démocratique. Le bassin a été corrompu, affirme Shreya Sekar, professeur adjoint de gestion des opérations à l'Université de Toronto à Scarborough. Malheureusement, parce que les avis sont si importants pour les consommateurs, ils sont également très importants pour les vendeurs, ce qui signifie qu'il y a toujours un risque que quelqu'un déjoue le système à son avantage, note-t-il. PC Mag, une publication spécialisée dans les avis sur les produits, rapporte que des données publiées en 2021 ont révélé qu'environ 200 000 personnes avaient participé à un système de faux avis avec des fournisseurs tiers d'Amazon. Les fournisseurs proposaient des remboursements par l'entremise de PayPal aux clients en échange d'avis 5 étoiles, ce qui permettait essentiellement aux clients de conserver les produits gratuitement. L'achat semblait légitime pour Amazon puisque le remboursement était traité en dehors de la plateforme. Pour riposter, des outils comme FakeSpot comparent les produits d'un large éventail de vendeurs, dont Amazon, Best Buy, Sephora et Walmart, pour proposer leur propre évaluation ajustée, tandis que Review Meta et The Review Index permettent de déposer une URL d'Amazon dans un moteur pour filtrer les avis potentiellement faux. à l'International Association of Better Business Bureau, BBB, lorsqu'un avis de client est soumis, l'association vérifie auprès de l'entreprise pour confirmer que le client est réel et demande également au client une preuve de transaction, indique Mélanie McGovern, directrice des relations publiques et des réseaux sociaux. Le contrôle prend toutefois du temps, a-t-elle ajouté. Certaines entreprises sont frustrées parce qu'il faut un certain temps pour que cet avis BBB soit publié, mais vous savez, les consommateurs peuvent être assurés que nous avons fait tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu'il s'agit d'une véritable expérience avec l'entreprise, souligne Mme McGovern. Méfiez-vous des Joe Blow et des John Smith. Selon Mme McGovern, les consommateurs peuvent repérer les avis potentiellement faux de plusieurs manières. Des noms d'auteurs génériques comme John Smith ou simplement des lettres et des chiffres sans photo de profil. Des avis très courts avec des déclarations vagues et une orthographe ou une grammaire médiocre qui peuvent suggérer des avis provenant d'une ferme de contenu située à l'extérieur du pays. Cependant, les avis générés par l'intelligence artificielle, IA, semblent de plus en plus humains, sans être trop formels, souligne M. Secard, et peuvent même inclure quelques fautes de frappe mineures pour paraître plus réelles. Même si les détaillants et les vendeurs s'efforcent de purger les faux avis de leur plateforme, l'IA et ChatGPT peuvent donner l'impression que c'est le jour de la marmotte, a-t-il noté. J'ai l'impression, poursuit-il, que ces mauvais acteurs finissent généralement par garder une longueur d'avance sur l'algorithme et au moment où l'algorithme rattrape son retard. Des dégâts sont déjà faits, puis ils passent à la prochaine stratégie rentable. En citant une étude de l'Université Cornell, le BBB a noté que les avis authentiques contenaient des descriptions plus spécifiques du produit ou du service lui-même, tandis que les faux avis incluaient davantage de détails étrangers de mise en scène, comme un anniversaire de mariage avec un conjoint ou un voyage d'affaires. Pour ce qui est de repérer les vrais avis, les experts affirment que les consommateurs peuvent rechercher les désignations d'achat vérifiées et également voir comment l'entreprise réagit aux avis négatifs. Il est judicieux de rechercher des détails sur sa situation particulière ou son utilisation spécifique, a fait valoir M. Secard. Si vous achetez des écouteurs pour vous rendre au travail en transport en commun ou pour faire du jogging, cherchez des avis qui mentionnent ces utilisations spécifiques. Je pense, dit M. Secard, que la plupart des vrais avis ont tendance à avoir un mélange d'éléments positifs et négatifs, comme les gens qui disent « c'est comme ça que ça marche pour moi, c'est pourquoi ça ne marche pas pour moi ». Donc, même s'il s'agit d'un avis 4 étoiles, s'il semble honnête et plus équilibré, je lui donnerai plus de poids qu'un avis 5 étoiles, mais qui n'ajoute pas vraiment de valeur. En ce qui concerne le marketing d'influence ou les échantillons gratuits en échange d'avis, les entreprises et les marques devraient divulguer cette relation, a déclaré Barry Alexander, directeur du marketing et de la diversité à l'Association canadienne du marketing. L'association dispose d'un code d'éthique et de normes, en plus de la législation qui réglemente le fonctionnement des entreprises et évite les pratiques de marketing trompeuses. Après tout, les marques de qualité veulent aussi des avis véridiques, fait valoir M. Alexander. Dans une certaine optique, les consommateurs et les entreprises sont dans la même équipe. Ils recherchent des expériences authentiques. Je pense que les avis sont l'un des nombreux moyens par lesquels une entreprise peut obtenir des données sur les performances de son produit, affirme M. Alexander. De nombreuses entreprises, en raison de l'importance des avis, incitent en fait les consommateurs après l'achat du produit à publier et à donner leur avis afin qu'elles puissent continuer à en apprendre davantage et à améliorer leur produit. Les avis sont donc un ami pour de nombreuses marques. C'était Comment repérer les avis bidons de clients sur l'Internet? Un texte de Nina Dragicevic de la Presse canadienne, paru le 4 décembre 2024 dans la presse.
Après 9 ans au Québec, un texte de Rémi Francoeur, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. Le Québec est un chef de file à bien des égards, mais nous profitons rarement de l'occasion pour nous en vanter, écrit l'auteur qui habite la province depuis maintenant 9 ans. Il y a 9 ans, j'ai pris la décision de quitter la Nouvelle-Angleterre pour le Québec, un endroit qui m'offrait la possibilité de retrouver et de nourrir une identité culturelle que je craignais de perdre. Le Québec, avec sa société francophone dynamique et ses traditions distinctes, m'a depuis donné un sentiment d'appartenance et de fierté. Mais en réfléchissant à mon parcours, je suis frappé par le fait que le Québec lui-même sous-estime souvent ses forces et son caractère unique. Le Québec est un chef de file à bien des égards, mais nous profitons rarement de l'occasion pour nous en vanter. Montréal, par exemple, jouit du taux de criminalité le plus bas de toutes les grandes villes d'Amérique du Nord, d'une scène artistique florissante et d'un mode de vie bon vivant et ouvert aux arts. Le Québec dans son ensemble est un pionnier en matière de progrès social. Il se targue d'avoir le taux le plus élevé de femmes sur le marché du travail, des garderies universelles, CPE, le plus long congé parental d'Amérique du Nord, accessible à tous les parents quel que soit leur sexe, et les frais de scolarité universitaire les plus bas du continent. Sur le plan culturel, le Québec se démarque en défiant les normes nord-américaines. Les francophones y ont le taux de mariage le plus bas et les femmes ne prennent pas le nom de famille de leur partenaire. Le Québec a également le taux d'athéisme le plus élevé d'Amérique du Nord. Ces détails peuvent sembler anodins, mais ils témoignent d'une société qui valorise l'égalité, l'indépendance et la pensée progressiste. Le Québec peut sans doute se targuer d'être la société la plus féministe et la plus inclusive du continent, favorisant l'égalité entre les sexes et la reconnaissance des droits de la communauté LGBTQ+. Pourtant, malgré toutes ces réalisations, le Québec hésite souvent à s'approprier sa spécificité et à raconter son histoire. Cette réticence contraste fortement avec des villes comme Boston, où les habitants célèbrent fièrement l'identité culturelle et historique de leur ville, enracinée dans ses communautés irlandaises et italiennes. Bien qu'ils puissent critiquer certains aspects de leur ville, leur fierté transparaît toujours. Oui, nous avons beaucoup de choses à améliorer et aucune société n'est parfaite, nous sommes loin du compte. Oui, la construction semble sans fin. Non, je ne crois pas qu'il y ait plus de corruption ici qu'à Toronto, Boston ou New York. Boston a même connu des problèmes avec sa version de la DPJ pendant des décennies. Les Dropkick Murphys ont même écrit une chanson sur ce sujet et sur le fait d'avoir grandi dans le système de l'État du Massachusetts. Nous passons simplement plus de temps dans les médias à parler de ce qui ne fonctionne pas ici qu'à parler de ce qui nous fait briller. Chaque fois que l'on parle de nos points forts, on ajoute toujours une mise en garde du type « oui, mais il y a aussi ceci ». En tant que personne ayant embrassé la vie au Québec et ayant fait l'expérience directe de la vitalité de sa culture, je crois qu'il est temps pour nous de nous débarrasser de notre modestie. Célébrons et nommons les nombreuses raisons pour lesquelles le Québec est exceptionnel. Nous sommes sacrément bons. Faisons en sorte que tout le monde le sache. C'est Montréal, c'est le Québec. Et il faut qu'on l'assume avec ses attributs en travaillant ensemble pour atteindre des solutions. C'est le point de vue de quelqu'un qui vit ici depuis 9 ans et qui aime l'extraordinaire, le bon, mais qui assume aussi le mauvais et qui sait qu'il faut trouver des solutions. C'était « Après 9 ans au Québec », un texte de Rémi Francoeur, paru le 28 décembre 2024, dans Le Devoir.
Plutôt que de se plaindre, elles vont applaudir les élus municipaux. Un texte de Marco Fortier paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir. On entend beaucoup des gens fâchés par les temps qui courent. Un groupe de citoyennes engagées a adopté une stratégie qui détonne par rapport à la morosité ambiante. Plutôt que de déverser leur colère dans l'espace public, elles ont décidé d'aller applaudir les élus municipaux qui prennent des décisions courageuses. On essaie de mobiliser les gens pour qu'ils aillent s'exprimer de façon positive. On va poser des questions aux élus sans être fâchés, résume Nathalie Hensley, une des instigatrices de ces manifestations de bonheur. Elle et ses collègues du groupe Mère au front ont fait des interventions remarquées au conseil d'arrondissement de trois quartiers de Montréal au cours de l'automne 2024. Elles ont mobilisé une cinquantaine de cyclistes qui sont allés féliciter les élus des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pour l'aménagement de pistes cyclables. Le groupe de cyclistes, qui portait tous un casque, n'est pas passé inaperçu. Ces maires militantes ont aussi apporté un appui audible aux élus de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour leur décision de tenir la collecte des ordures toutes les deux semaines plutôt que chaque semaine. Elles sont allées interpréter une chanson de leur cru au micro du conseil d'arrondissement, une sorte d'ode au compost et au recyclage sur l'air de « Nous aurons » de Richard Desjardins. En politique municipale, il y a toujours des groupes qui parlent fort et qui ne sont pas contents. On pense qu'il y a aussi une majorité silencieuse qui appuie les décisions des élus, dit Nathalie Hensley. Elle réagissait à un reportage du Devoir qui rapportait des critiques virulentes contre des décisions récentes de l'administration Plante. Ces protestations visaient la perte d'espace de stationnement pour aménager des pistes cyclables, l'espacement de la collecte des ordures ainsi que la piétonnisation de deux sections de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Plus de vélos, moins d'auto. Tous ces sujets sont extrêmement polarisants. L'opposition de citoyens et de groupes de pression est tout à fait légitime, affirment les maires au front. Le changement est toujours dérangeant pour des citoyens. Les maires militantes sont toutefois convaincues que la majorité des Montréalais appuie en silence ces politiques courageuses. L'administration Plante a ajouté plein de pistes cyclables. « Je trouve ça extraordinaire », dit Fanny Dionne, mère de deux garçons en bas âge. Elle adore faire son magasinage à vélo depuis l'aménagement des voies cyclables sur les rues Viau et de Marseille, près du stade olympique. Sans ces pistes cyclables, il y aurait eu une voiture de plus dans le trafic, dit-elle. Une voiture de plus dans le trafic? Pour être exact, il faut multiplier ce chiffre par 1,6 million. C'est le nombre de passages à vélo en 2024 uniquement sur le réseau express vélo, REV, de la rue Saint-Denis à la hauteur de la rue des Carrières. Si ce 1,6 million de passages de cyclistes étaient des passages en voiture, imaginez à quoi ça ressemblerait. La science est claire. Les pistes cyclables réduisent la congestion routière. Plus il y a de vélos, moins il y a de voitures dans les rues, dit Isabelle Sénécal, une autre maire au front plus que satisfaite des décisions de l'administration Plante. Piétonnisation. La piétonnisation est un autre sujet chaud qui soulève les passions. De façon générale, les opposants à la piétonnisation crient plus fort que les citoyens heureux de voir des bouts de rue fermés à la circulation automobile, déplorent les maires au front. Fanny Dionne cite un exemple de piétonnisation heureuse. L'aménagement du carré Notre-Dame-des-Victoires, qui a nécessité la fermeture de rues près de l'école primaire du même nom, a créé un lieu de rassemblement apprécié des familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Le parc pour enfants, les chaises et les tables de ping-pong en été attirent les enfants et leurs parents. Les voisins se parlent, apprennent à se connaître, s'entraident. les élus municipaux doivent pourtant encaisser des critiques acerbes pour ce genre de décision qui améliore le quotidien des résidents. On a de la chance d'avoir une administration municipale progressiste qui prend des décisions courageuses. On cherche des façons de soutenir ces élus, dit Nathalie Hensley. Les dirigeants municipaux doivent en plus gérer de grandes responsabilités qui sont financées ou sous-financées par les autres gouvernements, comme les transports collectifs, le logement social et l'itinérance. Grande responsabilité et peu de moyens d'agir. Une raison de plus d'aller applaudir les élus, affirment les maires au front. C'était plutôt que de se plaindre, elles vont applaudir les élus municipaux. Un texte de Marco Fortier paru le 12 décembre 2024 dans Le Devoir.
La Maison d'Hérel, en route vers son 35e anniversaire. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 21 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, on procède au lancement des festivités du 35e anniversaire de la Maison d'Hérel lors d'un bingo au Cabaret Mado. Le tout animé de manière humoristique par la drag queen Pétula Claque. Le porte-parole de la maison, le dramaturge Serge Boucher, est également sur place cette journée-là. Évidemment, il s'agit, par la même occasion, d'amasser des fonds pour cette maison qui est, avec la Maison du Parc, l'une des rares ressources d'hébergement pour des personnes vivantes avec le VIH-SIDA, PVVIH, au Québec. On connaît l'événement bénéfice annuel printanier de la Maison d'Hérel qui est un goût pour la vie, a taste for life. Alors que les gens vont bouffer dans des restos participants lors d'une soirée et que ceux-ci remettent ensuite une partie de leur recette à l'organisme. Mais cette fois-ci, c'est complètement différent. C'est une nouvelle formule pour amasser des fonds. C'est amusant, c'est plus festif, explique la docteure Marie-Josée Brouillette, présidente du conseil d'administration de la Maison d'Hérel. Nous avons une belle collaboration du Cabaret Mado et de la drag queen Pétula Claque. L'an passé, nous avions organisé un souper spaghetti. Nous voulons lancer ici les célébrations du 35e anniversaire de la maison avec des invités spéciaux et avoir du plaisir. C'est l'occasion de retrouvailles avec les amis de la maison. Bien sûr, il sera possible de faire des dons, mais on veut surtout retrouver notre monde. Mais c'est aussi pour démontrer notre engagement qui est continu envers les PVVIH et notre besoin de financement alors que, justement, les gouvernements coupent partout et non seulement notre financement de la maison. L'événement annuel « Un goût pour la vie »,« A taste for life », la sollicitation postale et maintenant ce nouvel événement constituent trois moyens pour amasser des fonds. C'est de plus en plus difficile de garder une certaine visibilité autour du VIH. Il y a de nouveaux médicaments plus efficaces et moins toxiques, oui, mais il faut se rappeler qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre la maladie. On veut justement continuer d'être là pour les gens qui en ont besoin, et ce jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on trouve une cure et un vaccin. Mais sinon, nous sommes là. D'où notre besoin de financement, rajoute la docteure Brouillette, qui est psychiatre à l'équipe multidisciplinaire VIH de l'Université McGill depuis 1990. Ce 1er décembre, donc, vous aurez l'occasion de rencontrer le dramaturge Serge Boucher, auteur des téléséries Aveu, Apparence et Feu, ainsi que de plusieurs pièces de théâtre montées, entre autres, à la compagnie Jean Duceppe et au théâtre d'aujourd'hui, et qui est aussi le porte-parole de la Maison d'Hérel. Serge Boucher est très actif. Il se démène beaucoup pour que cette ressource demeure, continue la docteure Brouillette. il prend très à cœur la maison et les services qui y sont offerts. Fondée en 1990, la maison d'Irel accueille encore aujourd'hui des gens aux besoins variés, mais qui vivent plusieurs situations difficiles dans leur vie, tout en étant atteints du virus du VIH. À l'origine, cette maison, comme bien d'autres qui se sont constituées à cette époque-là, accueillait des gens en fin de vie et leur offrait des soins palliatifs puisque les médicaments n'existaient tout simplement pas. À ce moment-là, les gens étaient traités dans les hôpitaux avec un personnel qui portait des gants, des blouses, des masques, etc. Ce n'était pas un bel environnement pour mourir, confirme bien la docteure Marie-Josée Brouillette. Donc, la maison les accueillait pour une fin plus digne et bien entourée. Par la suite, on s'est adapté aux besoins des gens et, encore aujourd'hui, on reçoit des gens dans une situation fragile de presque itinérance ou des réfugiés de pays en guerre et qui ont été infectés par le VIH. Hébergement transitoire, chambre permanente pour personnes vieillissantes, colocation pour personnes confrontées à divers défis, ainsi que le programme de logement social, c'est ce qu'offre la maison d'Irel. La maison opère plusieurs projets tels que la terrasse potagère, la recherche communautaire et le soutien entre pairs. Les gens vieillissent, il faut combler leurs besoins, souligne la docteure Brouillette. Nous avons aussi beaucoup de réfugiés de pays en guerre. Ils ont reçu un diagnostic tardif de VIH et maintenant ils doivent vivre avec la maladie, sans oublier des gens à risque d'itinérance. Donc, on continue à vouloir répondre aux besoins de ces personnes-là. Nous aidons beaucoup de gens dont la santé est fragile. Ce sont des gens qui ont contribué aux études cliniques pour tester les médicaments. On leur doit beaucoup parce qu'ils ont ainsi contribué à faire avancer la science. C'est important de leur démontrer notre reconnaissance et de leur offrir les services dont ils ont besoin 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. Et c'est notre engagement qui se poursuit depuis 35 ans maintenant, dit la docteure Brouillette. Comme membre de la Maison d'Irel et comme clinicienne, je suis un peu inquiète au sujet du financement de la maison. C'est pourquoi nous avons pensé à faire cette activité pour rassembler les gens et pour ramasser des fonds dont la maison a tellement besoin, de conclure la docteure Brouillette. Info, maisonderelle.org, maisondherelle.org. C'était la Maison d'Irel, en route vers son 35e anniversaire. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 21 novembre 2024 dans le magazine FU.